Voilà, on est bien chez nous, en tout cas, on est bien AFPP pour l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et aujourd'hui, on reçoit Angèle Christin. Angèle Christin qui vient de publier un ouvrage sur les comparutions immédiates. Donc un ouvrage d'ethnographie traitant de cette question-là. Et cette question est venue en fait particulièrement au moment des émeutes urbaines de novembre 2005 qui ont un petit peu... mis en lumière, en tout cas qui ont fait découvrir un public un peu plus large, ce qu'étaient les comparutions immédiates. Alors est-ce que tu pourrais peut-être nous réexpliquer un petit peu ce contexte de novembre 2005, les émeutes, comment ça s'est passé
Bien sûr, en fait, pour moi, la manière dont ça s'est passé, d'un point de vue très personnel, ça a été assez drôle parce que j'avais commencé déjà mon travail d'enquête donc sur les comparutions immédiates, qui à l'époque était une procédure encore très dans l'ombre. Très rapidement, dès fin octobre même, dans les salles d'audience de Paris, j'ai commencé à voir arriver des jeunes majeurs, en général entre 18 et 21 ans, pour les émeutes urbaines. C'est-à-dire ils étaient tous quasiment accusés d'incendie de poubelle ou de fabrication et détention de substances explosives. Donc en fait, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire au départ, il y en avait un par jour, puis après deux par jour, et puis une semaine plus tard, c'était les 10 dossiers de l'après-midi qui étaient des dossiers de violence urbaine. Et donc c'est vrai que ça posait la question de la réponse judiciaire aux émeutes urbaines, parce que je dirais à peu près les deux tiers des émeutiers ont été envoyés directement au tribunal des mineurs, et le tiers qui était majeur ont tous été envoyés en comparution immédiate avec des dossiers qui étaient extrêmement légers, c'est-à-dire en général où il n'y avait que le témoignage du policier qui avait interpellé le jeune en question et qui disait « voilà, je l'ai vu en train de brûler une poubelle, je l'ai coursé, je l'ai rattrapé et je vous l'amène, mesdames et messieurs les juges ». Donc c'est des dossiers très 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 fragiles, ce qui sur le coup a choqué beaucoup de gens en fait.
Voilà, et peut-être on peut rappeler un petit peu, en tout cas brièvement, le contexte politique de l'époque, puisque les émeutes urbaines avaient commencé à Clichy-sous-Bois après la mort de deux jeunes.
Oui, Zahia Debouna qui ont 16 et 17 ans et qui meurt fin octobre 2005 dans un transformateur électrique poursuivi par la police. Il y en a un troisième, Mutine, qui lui est très grièvement blessé. Et on voit qu'en fait, on a l'impression d'être dans un phénomène assez classique au départ. C'est-à-dire qu'il y a un début d'émeute, confrontation violente avec la police. Et puis ça s'étend un peu au quartier, aux villes voisines. Mais ça se calme et à peu près une semaine après ces événements. Là, il y a l'épisode de la grenade qui est envoyée dans la mosquée de Clichy-sous-Bois, d'une des cités. Et là, on voit que ça participe à un rebondissement en même temps que les déclarations de Sarkozy et qui va voir ces émeutes se généraliser dans un premier temps dans la Seine-Saint-Denis, en Ile-de-France, et atteindre même des villes comme Toulouse et d'autres dans le nord de la France. Et puis, c'est dans un contexte où on réactive la loi de 1955, la loi qui avait, pour la dernière fois, elle avait servi, au moment où il y avait eu le 17 octobre 61, la dernière fois où elle avait servi en métropole. Et on voit tout au long de ça des déclarations musclées de Sarkozy, et entre autres, des déclarations sur ce que sera la justice, qui dit très clairement que la justice sera impitoyable, les gens seront jugés immédiatement, et que les gens étrangers, avec ou sans papier, seront expulsés. Et on voit un truc très particulier, c'est que il y a le ministre de l'Intérieur qui intervient et qui dit ce que sera le résultat de la justice.
Et étonnamment, je dirais, c'est dans les tribunaux, les procureurs des tribunaux, c'est-à-dire en fait les chefs de l'accusation publique dans chacun des tribunaux d'Île-de-France, répercutent ce que dit le ministre de l'Intérieur, alors que normalement ça ne devrait pas être le cas, et donne tous des directives aux substituts du procureur en disant « Tous les dossiers de violence urbaine qui arrivent au tribunal, vous les envoyez en comparution immédiate parce que c'est un symbole politique très fort qui vise à rapprocher la sanction de l'infraction et qui donc donne un symbole de répressivité qui sera bien vu par la population. » Et donc on voit que même ne serait-ce qu'à l'intérieur des tribunaux, pratiquement, les procureurs donnent des directives en disant « Envoyez tout en comparution immédiate, c'est la chose à faire ».
Voilà, donc ça c'était novembre 2005, c'était le grand tournant dans les comparutions immédiates.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu s'ils l'estiment utile pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir.
Gentlemen.
L'arrière-feu, vous nous a agressé comme ça.
On vous a agressé.
Monsieur,
mais
j'ai rien fait.
Mais c'est pas une agression. J'ai fait non. C'est, attention. J'ai pas de malentendu. C'est pas une agression. C'est des techniques de police.
Le mot racaille est sans doute un peu faible.
Ce sera, si vous le voulez bien, à ses enfants de répondre dans quelques années.
On va vous en débarrasser.
Une révolte populaire des cités, bien plus que de simples violences urbaines. Dans un rapport dévoilé ce matin par le journal Le Parisien, c'est ainsi que les renseignements généraux qualifient les événements qui ont embrasé certaines banlieues françaises le mois dernier. Le mouvement n'était ni organisé ni manipulé par qui que ce soit. Pas de caïd à la tête des bandes, pas d'islamistes non plus. Un fort sentiment identitaire qui ne reposait pas sur l'origine ethnique ou géographique, mais bien plus sur une condition sociale d'exclus de la société française.
Palais de justice. Magistrat. Dossier. Système.
Bon, il n'y a pas de préjudice, hein. Enfin, je veux dire, la marchandise a été restituée, il y a pour 656 francs, ouais. Deux flacons de parfum Kenzo. Ouais.
Bon, faites une visite, hein, une perquis chez lui, là.
Ouais.
Toujours être intéressant. Vous entendez sa mère.
Ouais.
D'accord. Et puis surtout, vous me le cuisinez un peu.
Bon, alors, on récapitule. Des outrages. Et puis, des violences.
Moi, j'ai... Violence, moi.
Oui, c'est ça.
Violence, d'accord.
Uniquement, pas d'outrage.
Pas d'outrage, pardon.
Il me semble, hein. Si.
Je suis substitut du procureur de la République et c'est moi qui suis chargé de vous dire ce qui va se passer et de vous notifier les charges qui sont relevées à votre encontre. Vous venez d'être entendu, ça a duré un peu plus de 24 heures.
Ouais.
Sur des faits de violence pour lesquels, au départ, vous étiez victime. On est d'accord.
Au départ. Jusqu'à la fin.
Alors,
parce
moi,
que quand
je
suis parti, j'étais aussi une victime.
Je vous demanderai de ne pas m'interrompre, d'accord ? Je vous donnerai la parole après.
Ça, c'est normal, ça, par contre. Ça, c'est tout à fait normal, ça. Là, on suit la loi comme ça.
Bah, d'abord, la beaucoup. Loi, c'est moi, c'est pas vous. Et d'une ?
La loi, c'est toute la... c'est tout le monde,
et
la
deux...
loi, c'est pas vous.
Et non. Deux ? Non, absolument, monsieur. Et soyez... Ayez un autre ton devant le tribunal, je dis ça pour vous. Vous savez les réécrire ? Je vais vous faire signer deux documents. La première, c'est le procès-verbal qui reprend les charges qu'on vous reproche. Et le deuxième, c'est la demande d'être assisté d'un avocat.
La sécurité a progressé, la peur a reculé.
Voilà, c'était donc en 2005. Et puis, voilà, les comparutions immédiates vues comme une mesure directe, répressive, mais répondant à la montée de l'insécurité en France. Et puis, en fait, Angèle, on s'aperçoit que non, les comparutions immédiates, ce n'est pas du tout une recette moderne. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Simplement, voilà, elle a dévié petit à petit pour devenir aujourd'hui la solution, en tout cas politique, utilisée par les politiques, pour répondre à cette soi-disant montée de l'insécurité en France.
C'est vrai que les comparutions immédiates depuis une dizaine d'années, et particulièrement depuis les émeutes urbaines, sont sur le devant de la scène judiciaire et politique, quand les politiques parlent du judiciaire. Ceci dit, quand on regarde un peu plus précisément, on se rend compte effectivement que la comparution immédiate a été mise en place sous un autre nom, donc à l'époque les flagrants délits, au début du 19e siècle, dans les grandes villes de France, c'est-à-dire principalement à Paris et à Lyon. En fait, elle a été mise en place... parce que les procureurs des grandes villes, les substituts, donc en charge de l'accusation, étaient face à une alternative qui leur convenait très très peu. C'est-à-dire soit ils lançaient les dossiers en instruction, qui était déjà à l'époque une procédure très lourde, donc qui demandait d'un travail de juge d'instruction, etc. Soit ils faisaient ce qu'ils appelaient la citation directe, c'est-à-dire que la personne qu'ils avaient arrêtée à l'époque, ils la convoquaient à une date d'audience 3 jours plus tard, ou une semaine plus tard, et il la remettait dans la nature entre-temps. Le seul problème, c'est qu'au début du 19e siècle, donc période d'exode rural, ce qu'on appelle les populations flottantes, c'est-à-dire tout un ensemble de populations donc populaires qui ne sont pas, disons, intégrées parfaitement, donc notamment un ensemble de vagabonds, prostituées, mendiants, si jamais, donc qui sont arrêtés pour des petits délits en général, donc des violences sur tiers, des violences conjugales, la prostitution, vagabondage, alcoolisme, bon, si jamais tu envoies le dossier en instruction, c'est beaucoup trop lourd par rapport à la gravité du délit, et si jamais tu leur dis de revenir à une audience 3 jours plus tard, ils reviennent jamais. Donc les procureurs ont commencé tout seuls dans leur coin, presque sans prévenir personne, à mettre en place un système qui leur permettait de garder les gens et de les juger le plus vite possible, 24 heures ou 48 heures après les avoir arrêtés. Et c'est comme ça, en fait, qu'est née la procédure de flagrant délit, c'est-à-dire une procédure d'urgence où on arrête la personne, on la met en garde à vue, et 24 heures dans les 2-3 jours qui suivent, on rapproche le maximum le procès de l'infraction et on les juge immédiatement après. Et donc cette procédure, après, a été officialisée en 1863 et a continué tout au long du XXe siècle de manière, enfin, sans histoire. Mais c'est à partir des années 80 que la procédure a complètement explosé, c'est-à-dire avec le développement du thème de l'insécurité, progressivement. Tout d'abord, le nombre de délits, enfin, les délits qui peuvent être jugés en comparution immédiate, ça s'est agrandi. C'est-à-dire, au départ, c'était que de 1 an. Les délits qui sont punissables de 1 an à 3 ans de prison. Après, ça a été de 6 mois à 5 ans. Puis maintenant, c'est de 6 mois à 10 ans. Donc, par une série de lois en 81, 83, 95, 2001, 2003. Bon, voilà. Et par ailleurs, un deuxième arsenal de mesures qui est la création du traitement en temps réel dans les années 90. Le traitement en temps réel, c'est en fait un système, c'est l'entrée du management dans la justice, comme pour caricaturer un peu. C'est un système qui permet d'organiser et de compresser, enfin de rendre beaucoup plus rapide toute la chaîne pénale. Donc en fait, il y a un espèce de bureau des procureurs qui sont au téléphone avec les commissariats de la juridiction et en fait, ils sont en flux tendu permanent. C'est-à-dire les commissariats disent « voilà, on a arrêté un tel, qu'est-ce qu'on en fait ?» Les procureurs disent « d'accord », orientent le dossier dans l'institution pénale. Et donc tout ça, ça permet de complètement harmoniser l'ensemble des procédures d'urgence et la comparution immédiate comme procédure principale. Toutes ces procédures qui ont été mises en place dans les 20 dernières années.
Mais donc, alors la comparution immédiate a évolué. On parle donc de quelques lois où il y a eu des modifications, particulièrement des délits qui pouvaient être jugés en comparution immédiate. Mais la cible, en fait, ne change pas. C'est-à-dire que les prévenus, c'est toujours les mêmes. C'était au début du 19e, les populations flottantes, et c'est aujourd'hui toujours les populations urbaines et marginales.
Voilà, c'est exactement là où ça devient vraiment intéressant, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes personnes qu'on envoie en comparution immédiate. Et d'ailleurs, en général, toujours pour les mêmes raisons. C'est parce que les magistrats estiment que ce sont des faits simples. Ce sont des faits aussi qui ne sont pas très bien cotés dans l'institution judiciaire. C'est-à-dire, il peut y avoir des faits simples, par exemple, dans un cas de viol, mais dans un cas de quelqu'un qui a volé une bouteille de coca chez un épicier, ça restera simple pour l'institution judiciaire. Et donc, des faits simples pour des personnes dont on pense que si jamais on les convoque 3 mois plus tard, elles ne viendront pas.
Mais juste, quand on met en place ces procédures-là, on garantit quelque part que la justice va quand même fonctionner normalement, que la charge de la preuve, qui est un peu la base ou est-ce que dès le départ, on bat en brèche ce principe de base, que la charge de la preuve, etc.
La justification principale, c'est que les faits sont assez simples pour que les preuves minimales qu'on a le temps de mettre en place en 24 heures, c'est-à-dire très très peu de preuves. Au final, il y a uniquement le dossier du commissariat, donc c'est-à-dire les entretiens que les procès-verbaux des entretiens que les policiers ont pu mener avec la personne arrêtée, et une très très brève enquête sociale qui est faite en 10 minutes au téléphone, en général, par l'APCARS, l'Association de politique criminelle. Mais la faiblesse de ces preuves est justifié par l'institution judiciaire en disant « ce sont des faits simples qui n'en demandent pas plus ». Donc c'est pas la peine d'avoir 6 mois, en fait, pour construire un dossier là-dessus.
D'accord. Et donc est-ce que dans les faits, c'est ça qui se passe ? Parce qu'on va en venir à ce qui s'est passé suite aux émeutes, mais on a eu l'impression à certains moments que justement les faits ne sont pas si simples que ça, mais la procédure étant tellement simplifiée.
Il y a plusieurs sortes de... Enfin, c'est difficile d'arriver à une généralité. C'est-à-dire, je pense que pour les faits qui sont reconnus, où il y a des témoins, une victime qui vient témoigner et qui porte plainte, ce genre de réalité, la comparution immédiate est rapide, trop rapide, mais c'est à peu près correct. Le seul problème, c'est que de plus en plus, dans les 20 dernières années, tout un ensemble de délits qui ne sont pas du tout aussi simples, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus, où il n'y a pas de témoins, où il n'y a pas de victimes qui témoignent, sauf parfois l'agent de police judiciaire dans le cas des outrages et rébellions. Dans ces cas-là, pour les faits, quand les faits ne sont pas avérés et pas reconnus, la comparution immédiate est extrêmement désastreuse. D'ailleurs, les avocats, quand ils travaillent en comparution immédiate, disent souvent « on travaille à poil », parce qu'on travaille uniquement sur le dossier du parquet, et donc on n'a en aucun cas les moyens de fournir des preuves à décharge pour notre client.
Voilà, donc ça c'était un petit peu les premiers constats que tu as fait, parce qu'on peut peut-être rappeler quand même la démarche et la procédure de ton travail. Toi, tu as commencé d'abord par assister à des comparutions immédiates lors justement des émeutes de 2005, et puis ensuite tu as pris contact avec les tribunaux pour essayer de trouver un stage, et c'est là que l'affaire s'est compliquée.
Ouais, en fait, moi mon terrain ça s'est fait un peu en deux parties. C'est-à-dire au début de l'année, donc j'avais vu les documentaires de Depardon et j'avais assisté déjà à plusieurs audiences que j'avais trouvées très intéressantes sociologiquement et violentes socialement, parce que c'est vrai que c'est les audiences, c'est quand même de comparution immédiate. Bon, c'est très rapide, très violent, et c'est la confrontation de deux mondes sociaux qui sont quand même très éloignés. C'est-à-dire d'un côté les magistrats et les avocats, de l'autre des prévenus qui en général sont totalement démunis, qui n'ont pas dormi depuis 48 heures, enfin qui sont dans une situation de stress majeur et totalement nus face à l'institution. Donc j'avais commencé à assister à des audiences donc depuis début septembre, et au moment des émeutes urbaines en fait, et donc dans une période où en fait les discours sur la comparution immédiate se cristallisaient beaucoup, c'est-à-dire où il y avait d'un côté l'accusation d'une justice de classe, d'une justice au rabais, d'une justice à deux vitesses, et de l'autre, les magistrats et la chancellerie qui disaient les faits sont très simples, il n'y a pas besoin de plus, donc c'est une réponse totalement légitime aux infractions qui ont été commises au moment des émeutes urbaines. Donc au moment de cette cristallisation des discours, c'est vrai que moi j'ai ressenti un malaise, parce que juste en assistant aux audiences, j'arrivais pas du tout à savoir pourquoi telle personne avait eu 3 mois de prison, telle personne était ressortie libre. Ben, y avait une impression d'arbitraire total, en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, vers mi-décembre, d'essayer de rentrer à l'intérieur du tribunal. Donc, au moment de la première moitié de l'année, j'avais fait des entretiens avec des auxiliaires de justice, avec des avocats, des interprètes, mais je n'avais pas réussi du tout à faire des entretiens avec des magistrats, donc soit des juges, soit des procureurs. Et donc j'ai essayé de rentrer à l'intérieur des tribunaux de la région parisienne, et c'est vrai que ça s'est pas fait tout seul, parce que les tribunaux étaient dans une position de repli et de fermeture sur eux-mêmes à peu près totale. Donc j'ai d'abord commencé à essayer de passer par la voie officielle, comme on fait toujours, donc envoyer des lettres aux procureurs des tribunaux de Paris, de Bobigny. Ça, je n'ai eu aucune réponse. Après, j'ai essayé de passer par les archives, c'est-à-dire en essayant d'avoir accès au moins aux minutes des jugements pour pouvoir peut-être faire un travail un peu statistique sur la réalité des jugements. Je n'ai pas eu accès non plus aux archives, ça a failli marcher, puis au dernier moment, ça n'a pas marché. Et finalement, c'est bien par interconnaissance, c'est-à-dire une amie d'amis qui connaissait un juge, qui m'a envoyé sur un ami d'amis qui travaillait à Créteil. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu rentrer à Créteil, qui était dirigé par un magistrat de tendance réformiste. Donc les études sociologiques sur les comparutions immédiates intéressaient, d'un point de vue pratique, pour savoir quelle était la réalité de ces procédures. Et j'ai pu faire un stage de un mois et demi, que j'ai continué par la suite, au sein de l'unité de permanence, c'est-à-dire du groupe de substituts des procureurs, qui est en fait une espèce de centre de contrôle et de dispatchage des dossiers pénaux, c'est-à-dire où à la fois ils sont en contact avec les commissariats et les gendarmeries de la juridiction, et après c'est eux qui envoient les dossiers dans les différentes procédures, qui décident si jamais c'est du correctionnel ou de l'assise, et dans les différentes procédures correctionnelles. Et après, c'est eux qui sont aux comparutions immédiates et qui font l'accusation en comparution immédiate et font des réquisitions et demandent des peines. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis inscrite au tribunal de Créteil.
Plus largement, on a l'impression que dès qu'on veut toucher à l'institution judiciaire, c'est quand même un des milieux les plus difficiles d'accès, malgré un des principes de base qui est la publicité de la justice. Et tu parlais de Pardon quand il a sorti son film sur la 10e chambre, raconte que c'est des années quasiment de travail pour obtenir l'autorisation de filmer.
De Pardon a mis 10 ans ou 15 ans pour obtenir l'autorisation de filmer, c'est absolument incroyable. Et c'est vrai que bon, ça se comprend dans le fait que les magistrats ont ce qu'ils appellent un devoir de réserve, c'est-à-dire ne sont pas censés s'exprimer publiquement. Enfin, c'est un peu donc après les contours du devoir de réserve sont très flous. On en fait un peu ce qu'on en veut, hein, comme l'a montré le syndicat de la magistrature.
Ça paraît évident en cours d'instruction, mais même après.
Oui, même après, oui, de manière générale sur leur pratique. Donc c'est vrai que les magistrats ont beaucoup de difficultés à parler de leur pratique à des gens qui ne sont pas magistrats. Ceci dit, moi, quand j'ai commencé à entrer dans le tribunal, donc au départ, je me suis dit, mais je vais me faire... comment est-ce que je vais me faire recevoir venant de sociologie, ne connaissant pas grand-chose au départ, en droit et à la justice, Et en fait, il s'est avéré que les magistrats, une fois le premier pas passé, étaient très, très enthousiastes à l'idée de parler de leur pratique et disaient notamment, on est complètement seul. On ne sait pas du tout ce que les gens pensent de nous. On voit qu'on se fait critiquer, notamment dans les chroniques judiciaires. Je pense que les plus connues sont celles de Dominique Simoneau, qui sont excellentes sur les comparutions immédiates, mais il y en a aussi de Christian Aignon. Enfin, il y a tout un ensemble de chroniqueurs judiciaires. Et c'est vrai que les magistrats disaient, oui, on lit ces chroniques, ça a l'air terrible, mais nous, quand on travaille, on ne voit pas ça. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas du tout, en fait, comment on apparaît en public, et on n'a personne à qui parler de notre pratique. Donc sur le coup, c'est vrai qu'alors que je m'attendais à beaucoup de réserve, à beaucoup de froideur, et a une grande difficulté pour obtenir des entretiens et parler avec les magistrats. De fait, ils étaient très avides de dialogue et de retour, ce qui m'a beaucoup étonnée sur le coup.
1500 réservistes vont rejoindre les 8000 policiers et gendarmes sur le terrain. C'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte. C'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte.
Police partout, justice nulle part. Le soir sonne la butte, pouvoir, 2h du mat. Ça contrôle tes faf, le gomme cogne à bout de bras. Ils nous narguent et parlent en argot, nous braquent comme des narcos. La marque à Sarko, son impact est immédiat. Ça marche, puisqu'on passe pour Oussama dans les médias. L'immigré, fond de commerce de l'Elysée, cause de tous leurs maux. À la télé diabolisée, ex-colonisée. J'ai l'âme du gladiateur dans leur colisée. La cabine comme le MIB organisé. Contre cet état qui nous maintient en bas et nous passe à tabac et qui nous juge coupable. Quand on passe à la barre, on en bave. Ce rap à la magistrature, un outrage. Un ouvrage fait de mots trash. Preuve de notre âge, la bavure torture d'un autre âge. Guess, 2003 avant le naufrage. Ce rap à la magistrature, un outrage. Un ouvrage fait de mots trash. Preuve de notre âge, la bavure torture d'un autre âge. La cabine 2003 avant le naufrage. Ce rap à la magistrature, un outrage. Un ouvrage fait de mots trash. Preuve de notre âge, la bavure torture d'un autre âge. La cabine 2003 avant le naufrage. C'est toujours le même mec qui la ramène. Celui qui ranime la conscience enfermée dans des cheminées qu'on ramonne. On creuse pour trouver un peu d'espérance, mais franchement on ne trouve que des mal au dos. De la poussière sur la gueule et de la crasse qui termine au trop. Pas la peine de courir, on termine au trop. Assoiffé de combat comme du vice, une vermine accro. Je peux t'expliquer pour la 15e fois mes états d'âme. Et tu t'apercevras que malgré les apparences, c'est sur des sentiers parallèles que s'expriment toutes nos croyances. Depuis les bancs de l'école et mes interventions controversées, devant ces cours d'histoire truqués, c'est par un micro que mon stylo j'ai troqué. Gardez malgré tout mon insolence. L'indépendance de l'Algérie était une bonne chose et pas mauvaise comme le disait ce prof qui adorait la France. Aigri par les échecs d'un état qui enseignait la torture, il rêvait d'un monde colonisé où les empires perdurent. Et c'est là que tu vois qu'un esprit peut facilement être pollué. Comment tu veux que je m'efforce d'être poli? Tu peux me censurer, foutre un tas de parents avertis, raturés. Mais surtout ne me demande pas d'être désolé. Bienvenue en France, pourcentage de keufs le plus élevé d'Europe. L'injustice commence tôt quand ils trafiquent l'histoire de tes rampes. Ils sont allergiques à l'esprit libertaire. Avant d'être immigrés, on était fils de prolétaires. Ils croient qu'on est venu pour liquider leur terre. Ils nous ont pris pour leurs ancêtres. Quand avec leur croix et leur haine, ils ont traversé la mer. Ce rap à la magistrature, un outrage. Un ouvrage fait de mots trash, preuve de notre âge. La bavure torture d'un autre âge. La cabine 2003 avant le naufrage. Ce rap à la magistrature, un outrage. Un ouvrage fait de mots trash, preuve de notre âge. La bavure torture d'un autre âge. La cabine 2003 avant le naufrage.
Allez, c'était les copains de La Cabine, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et dans l'émission Les Oreilles Loin du Front, on reçoit ce soir Angèle Christin qui vient de publier Comparution Immédiate aux éditions de La Découverte. Angèle, on a évoqué, peut-être on pourrait rentrer un peu dans le détail, c'est grosso modo qu'est-ce qui se passe dans ce court délai entre le délit et le jugement, comment peut-être on pourrait essayer de voir comment se fait l'instruction et comment avocat, magistrat, procureur entre en scène et de quoi il dispose.
Oui. Alors, le principe de la comparution immédiate, c'est que c'est une procédure d'urgence. Donc, tout se déroule très rapidement, donc en moins de 24 heures ou 48 heures, entre le moment où les faits sont commis et le moment où le jugement est rendu. Donc, pour prendre un exemple concret, prenons un cas de violence conjugale, par exemple. Donc, Monsieur X, à tel endroit de la juridiction de Créteil, par exemple, que j'ai étudié, a tapé sa femme. Ça a fait du bruit. Une voisine, par exemple, a appelé les forces de police. Donc là-dessus, un agent de police judiciaire arrive, constate les faits et voit qu'effectivement, il y a bien eu violence conjugale, que la femme a bien des traces de coups et donc décide d'arrêter immédiatement le mari. Il l'emmène au commissariat, là, il le met en garde à vue. À ce moment-là, l'agent de police judiciaire ou l'officier de police judiciaire appelle le tribunal de grande instance de la juridiction. Il tombe sur donc des substituts du procureur, en général d'une unité de permanence ou de la permanence pénale, et il lui résume les faits en disant « bon bah voilà, à tel endroit, on a arrêté telle personne, on l'a mise en garde à vue pour un cas de violence conjugale, on a regardé son casier judiciaire ». Il est en récidive, il a déjà commis des faits semblables il y a 6 mois, 2 ans, 4 ans, donc ce n'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là-dessus, le substitut du procureur, qui est de permanence à ce moment-là, prend une décision, c'est-à-dire décide de la procédure dans laquelle ce cas et la personne va être envoyé. Donc très souvent, par exemple, dans le cas des violences conjugales et quand le prévenu est en état de récidive, il décide d'envoyer le dossier en comparution immédiate, en disant les faits sont graves, par exemple, il y a des enfants, il est en récidive, il y a danger pour la femme, on va régler ça très vite, envoyons-le en comparution immédiate. Donc dans ce cas-là, le prévenu...
Est-ce que le prévenu peut refuser justement son...
Non, en aucun cas. Et en général, il n'est même pas au courant de ce qui lui arrive. Lui, il est en garde à vue. Donc bon, maintenant, les droits de la garde à vue, heureusement, ont été un peu améliorés, donc on peut passer un coup de téléphone. Mais très souvent même, par exemple, la famille du prévenu ne sait même pas qu'il a été arrêté, parce que ça se passe tellement vite, et parfois le prévenu n'utilise pas son droit d'appel et ne téléphone pas à sa famille, donc personne n'est au courant qu'il y a un procès, ce qui peut être très grave. Donc dans le cas où le prévenu que le dossier est transmis en comparution immédiate, le prévenu est amené au tribunal en fourgon, est mis dans le dépôt du palais de justice, c'est-à-dire en fait la prison qui est dans les sous-sols en général, et ce n'est pas des sous-sols très très reluisants, des palais de justice, donc Paris, Créteil, Bobigny, enfin la juridiction. Là, donc en général ça se passe le matin. Entre 10h du matin et le début de l'audience de comparution immédiate, qui est en général l'après-midi, donc à 13h ou à 13h30, pas mal d'événements vont se passer. Tout d'abord, le prévenu va rencontrer un procureur, un substitut du procureur, qui va effectuer ce qui s'appelle les notifications. C'est-à-dire qu'il y a une entrevue où le procureur explique au prévenu ce qui va se passer pour lui, en lui disant « voilà, vous êtes poursuivi pour tel fait, donc violence conjugale, vous êtes en état de récidive ». Il vérifie les informations, c'est-à-dire la date de naissance et les informations d'état civil du prévenu, et il lui dit « voilà, pour ces faits, je vous poursuis ». En comparution immédiate, et vous passez cet après-midi à l'audience. et je vous préviens que je vais requérir contre vous telle peine. Après, il lui demande si jamais il veut un avocat commis d'office ou si jamais il a un avocat qu'il souhaite contacter. Là-dessus, le prévenu dit s'il veut un avocat commis d'office ou un avocat de son choix. Dans 80% des cas, c'est un avocat commis d'office parce que les prévenus n'ont ni les moyens ni le carnet d'adresse pour connaître des avocats dans la juridiction, donc c'est un avocat commis d'office. Et là, les avocats qui sont de permanence, c'est-à-dire en général des jeunes avocats qui viennent passer un jour au tribunal et qui s'occupent d'une vingtaine de dossiers dans la journée, rencontrent le prévenu, mettent au point avec lui une stratégie de défense très rapide en général, c'est-à-dire ils vérifient juste si jamais le prévenu reconnaît ou ne reconnaît pas les faits, et ils demandent le numéro de téléphone de la famille pour pouvoir contacter la famille, les faire venir au tribunal, et si possible qu'ils amènent des preuves d'insertion sociale au sens large, c'est-à-dire soit des quittances de loyer ou des bulletins de salaire ou des choses comme ça. Et immédiatement après, le prévenu est ramené dans sa cellule et une heure plus tard, il est jugé. Après, les audiences se déroulent de manière, encore une fois, c'est placé sous le signe de l'urgence, c'est-à-dire qu'à Créteil, je pense, bon, à Paris, il y a des audiences le matin et l'après-midi, mais à Créteil, il y a une audience chaque après-midi qui dure de 13h30 à 20h. Et pendant ces heures-là, en moyenne, entre 15 et 20 dossiers sont jugés. Ce qui fait, on peut s'en rendre compte, un temps très court par dossier, entre 15 et 20 minutes. Donc la manière dont le process déroule, c'est assez connu par les films et les choses comme ça, c'est-à-dire d'abord le président expose les faits, c'est-à-dire lit le dossier que lui a transmis le commissariat et les procureurs en disant voilà, donc vous êtes poursuivi pour tel fait, vous avez un casier judiciaire, est-ce que vous reconnaissez les faits ? Là-dessus, le prévenu dit oui ou non, je reconnais les faits. Donc, par exemple, dans le cas des violences conjugales, assez souvent, les faits ne sont pas reconnus. Ensuite, le président appelle la victime, si jamais la victime a décidé de porter plainte, et fait témoigner la victime. Donc la victime peut ou pas se constituer partie civile, c'est-à-dire demander une somme d'argent pour les dommages qu'elle a subis. Et après, les parties adverses commencent, c'est-à-dire d'abord le procureur qui fait ses réquisitions et qui dit « voilà, étant donné le trouble à l'ordre public et le fait que le prévenu est en récidive, je demande tant ». En comparution immédiate, en général, le temps, c'est de la prison ferme. C'est-à-dire dans le cas de violence conjugale, par exemple, avec quelqu'un qui est en état de récidive légale, ça tourne autour des 3-6 mois de prison, ce qui est assez lourd. Après, l'avocat prend la parole pour faire sa plaidoirie et essaye d'exposer les éléments à décharge pour son client. Mais comme en général, il n'a eu que une heure, deux heures, au maximum trois heures pour s'occuper de plusieurs dossiers, 5 ou 6 dossiers, les éléments sont très très brefs. Enfin, c'est-à-dire, il dit juste, mon client est inséré, il a un travail, et vous ne devez pas le mettre en prison parce que cela ruinerait complètement ses chances d'insertion.
Et là encore, est-ce que l'avocat peut demander le report du dossier et,
Il peut demander le report du dossier pour pouvoir amener des précisions complémentaires, demander par exemple des cas d'expertise, parce qu'en comparution immédiate, il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale et beaucoup de gens à la limite de l'irresponsabilité pénale, donc on peut vouloir demander une expertise psychologique ou psychiatrique. Le seul problème, c'est que s'il demande un report, ce qu'il peut faire, les juges doivent quand même se prononcer sur la détention provisoire. Or, comme justement la comparution immédiate est une procédure pour les populations dites flottantes, qu'on a peur de voir ces cas s'éloigner dans la nature, en général, c'est la détention provisoire qui est décidée. Et les dates de report sont assez longues. Donc mettons, entre avoir 3 mois maintenant et attendre 3 mois pour avoir 3 mois, en général, les avocats déconseillent le report.
Mais ces 3 mois qu'on obtiendrait en cas de condamnation, on ne les effectue pas si on a fait les 3 mois de comparution ?
Non. Mais en général, les prévenus préfèrent avoir un résultat net et savoir combien de temps à l'avance ils seront incarcérés dans le cas où il y a incarcération.
Alors moi, je suis surpris parce que j'étais persuadé qu'on pouvait refuser sa comparution immédiate et demander à passer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible.
Non.
Et concrètement, si on poursuit sur l'explication de comment fonctionne tout ça, on se penchera peut-être tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on juge et concrètement, qu'est-ce que donne cette machine judiciaire. Ceux qui participent à ça, par exemple, on peut dire deux mots des avocats. Quel sens ça a pour eux de faire ce travail-là et qu'est-ce qu'ils en disent ?
Les avocats qui exercent en comparution immédiate sont majoritairement des avocats commis d'office. Donc les avocats commis d'office aux comparutions immédiates, c'est un milieu très particulier parce que c'est en général de très jeunes avocats qui ont passé le barreau un an ou deux ans auparavant.
Alors passer le barreau, c'est avoir son diplôme.
Avoir son diplôme et pouvoir exercer la profession d'avocat. Et donc pour eux, ils ont une position très très ambiguë par rapport aux comparutions immédiates parce que d'un côté, ils sont généralement très critiques de la machine judiciaire, donc ils décrivent comme une machine, où ils disent on n'a absolument aucune influence, on ne peut rien faire, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de faire une vraie défense, et donc c'est un simulacre de défense pénale, et juste, on est là parce qu'il le faut, mais bon. Donc, ils peuvent être très critiques.
Non, il le faut, parce que là encore, c'est une question que... Ils sont obligés de... Ils ne peuvent pas décliner le...
Non, en général, ils s'inscrivent à la permanence pénale. Mais ils disent juste qu'il faut quelqu'un pour effectuer la défense et que c'est eux qui le font parce qu'il faut quelqu'un.
Ils s'inscrivent parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants à ce moment-là pour...
En général, c'est parce qu'ils sont au début de leur carrière et donc qu'ils n'ont pas de carnet d'adresse. Donc voilà, d'un côté, les avocats sont très critiques sur la comparution immédiate. De l'autre, ils ont l'impression de pouvoir jouer un rôle en se portant notamment garant de la solidité de la procédure. Parce qu'un des grands points que peuvent marquer les avocats en comparution immédiate, c'est vérifier la procédure pénale. Donc des 24 heures qui ont précédé le procès, donc entre l'arrestation et le fait que le prévenu soit amené au dépôt. Et si jamais il trouve un vice de procédure, c'est-à-dire le fait que le prévenu n'ait pas pu passer son coup de téléphone ou n'ait pas pu voir un médecin dans les premières heures de garde à vue, dans ces cas-là, ils peuvent soulever une nullité et toute l'affaire est annulée et le prévenu est relaxé. Donc ils disent, dans très peu de cas, on peut trouver ces nullités. Et pour ça, ça vaut le coup, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie la solidité de la procédure. Et par ailleurs, il y a aussi une autre explication plus pratique, qui est que c'est une manière pour eux de se constituer un carnet d'adresses de clients, et aussi d'asseoir une pratique professionnelle qui est encore très très fraîche. Et donc, en général, ils parlent des comparutions immédiates avec aussi beaucoup de passion, en disant « on voit passer des dossiers très intéressants qu'on ne verrait pas passer sinon ». Et on peut avoir des enjeux qui nous dépassent, qu'on n'a pas l'habitude de voir en étant tout jeune avocat.
Bon, ben là, en vous écoutant, on a vraiment quand même l'impression d'une justice au rabais. Là, Angel, tu prenais l'exemple effectivement d'un cas de violence conjugale où on peut imaginer, par exemple, qu'il y ait des traces de coups sur la victime, donc où là, on peut éventuellement trouver des preuves un petit peu tangibles. Mais concernant, par exemple, les émeutes urbaines, moi, je sais que j'étais allé assister à des comparutions immédiates à Lyon, au tribunal, et il y avait beaucoup de cas de gens qui étaient arrêtés, donc uniquement sur témoignage des policiers, qui disaient les avoir vus déposer une bouteille près d'une poubelle, et qu'ils sentaient vaguement l'essence. Voilà, donc ces gens-là sont jugés en 24 heures dans l'urgence, sans défense. J'imagine qu'après, en plus, 16 heures de garde à vue, on n'arrive pas forcément... les yeux en face du trou, des trous, pardon, au tribunal. Excusez-moi. Et voilà. Et du coup, c'est quoi cette justice-là, en fait? En introduction, tu parlais d'une justice de classe.
Tu parles aussi d'une justice de race.
Oui, parce qu'effectivement, une grande majorité des prévenus qui sont jugés, bon, la population des prévenus est essentiellement à 90% masculine. D'origine très populaire dans beaucoup de cas, même si jamais c'est très difficile d'avoir des chiffres. Et pareil, sur l'origine ethnique, impossible d'avoir des chiffres, mais à partir de mes observations, c'est les trois quarts ou les quatre cinquièmes des cas aussi. Moi, je pense que les émeutes urbaines symbolisent la dérive la plus extrême, en fait, des comparutions immédiates. C'est-à-dire un cas où les faits ne sont quasiment jamais reconnus par le prévenu, et où il n'y a aucun élément de preuve hors la parole des policiers. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en général, la justice, dans ces cas-là, vient s'insérer dans des relations entre les forces de police et les jeunes des quartiers, qui sont des relations de long cours. C'est-à-dire où ils se connaissent, et peut y avoir des systèmes de représailles, ou en tout cas, voilà, des négociations internes. Et donc, les policiers peuvent très bien décider d'envoyer un jeune qui les a fait chier, mais peut-être sur quelque chose de totalement différent, en comparution immédiate, sur une histoire de violence urbaine, alors que si ça se trouve, Ça, ce n'est pas du tout le cas, mais juste pour marquer le coup ou pour dire, voilà, on va lui faire peur. Et donc, les cas comme ça, où il y a juste la parole du prévenu qui dit « c'est une bavure, je n'ai rien fait, je me suis fait tabasser », et qui a notamment, enfin, moi j'ai vu plusieurs cas où il y avait donc des jeunes qui étaient poursuivis pour outrage, rébellion et violence sur agent de police, et on voyait l'agent de police qui avait un jour d'arrêt de travail, parce qu'il avait un bleu à l'épaule, et où le jeune avait 10 jours d'arrêt de travail, concrètement il était roué de coups. Et c'était quand même les policiers qui portaient plainte. Dans ce genre de cas, c'est vrai qu'à mon avis, la comparution immédiate est complètement inutile et même dangereuse. Parce qu'il n'y a absolument aucun moyen d'apporter un semblant de preuve.
Mais comment on peut défendre ce système-là ? Alors comment les magistrats se positionnent ? C'est-à-dire là, quasiment dans l'histoire des règlements de compte entre policiers et jeunes des quartiers, c'est une instrumentalisation de la justice finalement.
Dont les magistrats sont très conscients. C'est-à-dire la plupart des magistrats, notamment avec le traitement en temps réel, c'est-à-dire le fait que les substituts et les policiers sont au téléphone en permanence, les substituts expliquent que les policiers essayent de plus en plus de les instrumentaliser. C'est-à-dire notamment de prévoir à l'avance quelle va être la réponse judiciaire aux infractions qu'ils ont constatées. Et notamment, ce qui est très intéressant dans ce dialogue téléphonique, c'est que donc, les policiers résument l'infraction au substitut, mais ils la résument un peu dans le sens qu'ils veulent. Parce que c'est un dialogue téléphonique très rapide, qui dure 4 ou 5 minutes, et donc les policiers peuvent très bien dire « à mon avis, c'est très mauvais, faudrait vraiment l'envoyer en comparution immédiate ». Bon, c'est beaucoup plus fin que ça en général, c'est-à-dire le policier dit pas « monsieur le substitut du procureur, envoyez cette personne en comparution immédiate ». Mais il peut orienter les faits de telle manière que le substitut, mécaniquement, va envoyer l'affaire en comparution immédiate. Et après, le substitut peut recevoir le dossier. Donc ça y est, c'est envoyé en comparution immédiate, c'est trop tard, on ne peut plus faire marche arrière. Le dossier va passer en comparution immédiate. Mais il peut recevoir le dossier et faire « Ouh, mais c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit ». Et donc dans ces cas-là, il y a des systèmes de négociation interne entre substituts et policiers, parce que les substituts sont les supérieurs hiérarchiques des agents et des officiers de police judiciaire. Donc après, les substituts peuvent, en gros, aller engueuler les policiers en disant « ce coup-là, tu ne me le refais plus », notamment parce que moi, après, les gens m'ont dit que j'avais monté un dossier bidon, et donc les juges et les autres substituts m'ont dit que j'avais monté un dossier bidon, et je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là, parce qu'il ne faut pas non plus voir les substituts comme des gens parfaits, mais c'est-à-dire ils disent aussi « voilà, je me suis tapé la fiche, je ne veux pas que ça recommence ». Et donc, comme ça, essayer d'instaurer une sorte d'équilibre, un ordre négocié avec les policiers.
Et c'est quoi les moyens de pression, justement, des substituts sur les policiers ? Est-ce qu'ils ont des
moyens ? C'est réprimande et ordre hiérarchique. Et donc, en général, ça passe par...
Et c'est efficace ?
C'est assez efficace, je crois. Parce que les policiers, dans les rapports entre les policiers et les substituts, qui sont en fait vraiment la naissance de la chaîne pénale qui mène aux comparutions immédiates, c'est-à-dire tout se passe dans le quart d'heure de dialogue entre substituts et officiers de police judiciaire. Donc, dans ces dialogues et dans ces relations, les réputations des uns et des autres sont très importantes. Et donc, si tous les substituts d'un tribunal savent que tel policier, par exemple, arrête pas de mentir, non, c'est pas ça, mais tend toujours les faits, par exemple, ne supporte pas les violences conjugales et essaye toujours de faire envoyer, ou mettons, ne supporte pas les jeunes des cités, et essaye tant toujours les faits, les distord légèrement pour les faire envoyer en comparution immédiate, à la fin, ils vont plus le croire et ils vont réagir toujours en dessous. Donc à terme, je pense que ça se régule. Mais c'est vrai qu'il y a des dérives qui sont assez graves.
Mon père m'a dit, espèce de voyou, chez nous un homme, ça meurt debout. Il a fait parler la foudre et la foudre a parlé. Emprisonné pour un braquage de trop, qui nous promettait même pas la lune. On s'est fait serrer moi pour sauver ma peau, vu qu'il y avait pas le magot. Je suis tombé pour des prunes et pour du vent, moi qui ne tombais pas si souvent. Mais ils ont fait parler la foudre et la foudre a parlé. J'ai jamais pris mes jambes à mon cou. Mauvais sort, j'ai dit au juge sans rancune. Puisqu'il y a des vies qui valent pas un clou et qui n'ont pas le même goût. Me voilà condamné. que des hiboux. Si le jour fait pas de place, la nuit pense les plaies. Mange, c'est je te laisse le cœur gros. Je me souviens de chacun de tes mots. Et ceux qui m'ont traîné jusqu'au cachot, j'ai pas juré de leur trouer la peau. Me voilà condamné pour quelques paires d'années à ne plus savoir pour quelle raison. À peine condamné, je me vois la destinée à compter les jours plus que de raison. Me voilà condamné.
Et voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, les oreilles loin du front, et on est toujours avec Angèle Christin qui vient de publier Comparution immédiate. Et justement, dans ce livre, tu décris le système des comparutions immédiates. Nous, ça nous apparaît comme un système terrifiant où la justice se fait avec des magistrats, des procureurs, des avocats qui comme tu le décris, tentent d'éviter le pire, mais leur bonne volonté fait que finalement ce système continue à fonctionner et qu'il n'y a personne pour enrayer cette machine dont la pire des caricatures aussi parce qu'elle a été visible dans les médias et qu'un certain nombre de militants sont allés sur place voir ce qui s'y passait. Ça a été suite aux émeutes de novembre 2005 et peut-être poursuivre ce que disait Raphaël, c'est réforme ou révolution dans ce système-là. Est-ce que ce système-là n'est pas un système à bout de souffle qu'il faudra abolir?
C'est pas mon problème. Non, je dirais que la comparution immédiate c'est un sujet qui cristallise beaucoup d'enjeux, énormément d'enjeux. Et je le savais en commençant à travailler là-dessus. Mais c'est vrai que moi, tout mon travail, et c'est pour ça notamment que j'insiste beaucoup sur le fait que j'ai fait un terrain en deux parties, c'est-à-dire une partie du côté du public et des prévenus, et une partie du côté des magistrats. Bon. Tout l'intérêt de mon travail, je pense, c'est d'essayer de prendre de la distance par rapport à, justement, ces discours cristallisés. Donc, d'un côté, justice de classe, de l'autre, cela est nécessaire, et genre, ce n'est ce que... Enfin, les délits sont simples, donc ça le mérite, bon, pour caricaturer. En essayant de voir comment les pratiques des magistrats s'inscrivent dans un processus... Enfin, quel est le processus, en fait, qui mène jusqu'au jugement. Et donc, en essayant, voilà, de prendre de la distance par rapport au discours et notamment au discours militant. Et donc c'est vrai que sur la question de la suppression de la comparution immédiate, j'ai pas grand-chose à dire finalement. Peut-être à tort, mais j'ai pas grand-chose à dire. Et notamment parce que j'ai étudié seulement deux tribunaux dans lesquels j'ai vu, moi, des magistrats qui effectivement font leur possible pour essayer, disons, d'allier les conditions de travail déplorables dans lesquelles ils exercent et un certain idéal de la justice, pour ce que certains peuvent appeler leur être magistrat, c'est-à-dire la manière dont ils voient leur métier. En général, ce sont des gens avec des convictions assez fortes sur le rôle de la justice, et ce que c'est que le jugement, et ce que c'est que la personnalisation des peines. Et donc, ils se retrouvent complètement en porte-à-faux, en fait, à ce moment-là de leur carrière, entre une pratique qui ne les satisfait pas du tout et des idéaux qu'ils n'arrivent pas à accomplir. Mais en même temps, c'est uniquement ce que j'ai vu sur deux tribunaux. Et donc c'est vrai que j'ai aucune réponse sur la question de la suppression. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il y a une dérive depuis 20 ans. On envoie de plus en plus de dossiers en comparution immédiate. On envoie des dossiers qui n'ont rien à y faire. Et notamment, je pense à des dossiers très graves qui peuvent passer en comparution immédiate uniquement pour gérer les flux, c'est-à-dire par exemple aux viols qui sont correctionnalisés et qui passent en comparution immédiate, ou aux questions de trafic de stupéfiants qui sont des énormes réseaux et où juste pour faire du chiffre et pour mettre, pour libérer un peu d'espace dans les tribunaux de grande instance, ces questions de trafic de stupéfiants, qui sont des choses qui devraient être jugées avec du temps et en prenant le temps de démanteler le réseau, sont envoyées en comparution immédiate et donc c'est juste les petits vendeurs qui sont arrêtés. Et donc je pense que sur ces questions-là, ou encore une fois sur les questions d'outrage et de rébellion, où c'est la parole du jeune contre la parole du policier, où il n'y a aucun élément de preuve. Je pense que sur ces questions-là, on peut dire très clairement que ça doit être arrêté en mettant plus d'argent dans d'autres procédures correctionnelles qui ne sont pas des procédures correctionnelles d'urgence, et que c'est comme ça qu'on peut améliorer la situation.
Et précisément, justement, sur ce cas-là, sur des faits assez semblables, mais pour lesquels il a été requis, non pas la comparution immédiate, mais un autre type de jugement, est-ce que tu t'y es penché? Est-ce que tu as pu comparer les peines et ce qu'a subi les...
Oui, alors j'ai regardé un peu juste le taux d'emprisonnement. La comparution immédiate envoie deux fois plus en prison, proportionnellement, que les autres procédures correctionnelles.
Raphaël, voilà. Tu voulais revenir sur d'autres chiffres.
Bah oui, du coup, on continue sur le chiffre, parce que tu dis qu'en moyenne, 10% des affaires sont jugées en comparution immédiate. Et puis, des gros écarts entre les tribunaux, parce que, par exemple, Bobigny, c'est 30% des affaires, et Châlons-en-Champagne, seulement 2%.
Oui. Dans les tribunaux de la région parisienne, la comparution immédiate est devenue un instrument, et même l'instrument privilégié, de la gestion des flux correctionnels, en envoyant exactement un tiers des dossiers dans cette procédure d'urgence, qui normalement est une procédure exceptionnelle.
Donc c'est bien une sorte de soupape, c'est que la justice est en train est complètement embouteillée, prête à exploser, et qu'on utilise les comparutions immédiates qui, au départ, sont prévues pour un certain type de délit, simplement pour désengorger les tribunaux.
Depuis 20 ans, c'est le cas. Et c'est à ça, notamment, que l'accumulation de lois qui élargit la palette des délits qui peuvent être envoyés dans cette procédure, c'est à ça que ça a mené.
Et à ces comparutions immédiates, est-ce qu'il y a d'autres types de procédures rapides qui existent et qui pourraient être aussi une alternative peut-être à gérer le flux justement?
Alors il y a un certain nombre. La comparution immédiate est la principale procédure d'urgence. Après, il y a d'autres procédures qui sont un peu moins urgentes, qui sont la comparution par officier de police judiciaire, la comparution par procès-verbal, donc qui sont des procédures où donc le prévenu est convoqué à une audience qui a lieu 2-3 mois plus tard. Mais encore une fois, avec l'engorgement des tribunaux, assez souvent, on a pu avoir, par exemple, à Créteil, je crois qu'en 2004, le délai était de 10 mois. Donc ce qui ne fait plus aucun sens. Et sinon, après, il y a toutes les procédures qui sont en train de se développer, qui sont dites des procédures de troisième voie, et notamment toutes les procédures de plaidé coupable, dans les cas où les faits sont reconnus. Donc c'est reconnaissance préalable de culpabilité et plaidé coupable. Et donc dans ces cas-là, si jamais le prévenu reconnaît les faits, le procureur propose une peine qu'un juge approuve, mais il n'y a pas procès. Donc toutes ces procédures-là ont été mises en œuvre pour essayer également de désengorger le tribunal correctionnel.
C'est-à-dire qu'on propose des formes où la justice ne fait pas plus son œuvre. Enfin, quand même, le principe de base de la justice, c'est qu'il y ait la charge de la preuve avec toutes les garanties que peut apporter la justice. Et on propose presque de réduire encore la possibilité de faire acte de justice à travers les formes alternatives qui sont presque encore en dessous de la comparution immédiate, pratiquement. Ouais. Dans la mesure où il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus qu'une négociation.
C'est du deal.
Dans le cas où les faits sont reconnus, ouais.
Voilà. Et puis, pour enfoncer le clou et pour ne pas être optimiste, il y a ce projet de loi, qui est une loi qui est de Rachida Dati, qui est passée en juillet 2007, qui prévoit un plancher de peine, un tiers de la peine maximale pour les récidivistes. Donc, on tend quand même de plus en plus vers une justice automatique, une justice où les juges ne jugent plus, mais appliquent des grilles, quoi.
La réaction des juges à la loi de Rachida Dati a d'ailleurs été extrêmement douloureuse, parce qu'en fait les juges en comparution immédiate sont pris entre deux choses complètement contradictoires, c'est-à-dire d'un côté le principe de personnalisation des peines, où à chaque prévenu correspond une peine appropriée qui prend en compte l'ensemble de sa situation, et de l'autre un système de plus en plus automatique où l'urgence, le manque de temps le fait que de plus en plus les sanctions sont barémisées, c'est-à-dire que pour un certain type de délit avec un certain type de casier, on va avoir un certain type de jugement, et les peines planchers contribuent à faire du jugement quelque chose d'extrêmement rapide et où la place du doute n'existe plus.
Voilà, on arrive très en retard au bout de cette émission. On recevait donc ce soir, je m'excuse, on peut pas aller au bout de toutes les questions qu'on avait prévues, mais donc on recevait ce soir Angèle Christin qui publie Comparution immédiate, enquête sur une pratique judiciaire. C'est donc publié aux éditions La Découverte dans l'excellente collection Texte à l'appui, enquête de terrain, et ça coûte 20 € et ça vient juste de sortir. Angèle, merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, voilà, c'était Les Oreilles loin du front et c'était très bien. C'est en tout cas ce que nous disait au fond de nous notre être magistrant. Ce soir, autour des boutons, autour des micros, pour rapprocher la sanction de l'infraction, on retrouvait le multirécidiviste des choix incertains de l'actualité musicale. C'était Guillaume Yom. On retrouvait également celui qui veut abattre non seulement la justice bourgeoise, mais aussi les bourgeois de justice et ses clips pourris. Et on va sûrement l'aider, c'était donc Raphaël. Alors lui, une mauvaise interprétation de la notion de devoir de réserve fait qu'il a stocké chez lui 200 hectolitres de jeux pilaires, c'était Cédric. Et puis, dans le rôle de la population flottante, ce soir, on retrouvait Juliette. Il y avait aussi Alexandrine. Il y aura bientôt le port d'Alexandrie qui chantera la même mélodie, puisque voici Claudia, que ce soir je dois avoir la fièvre et que toi tu meurs de froid.